rassemble ce soir la parole de Dieu, tout d'abord à l'évangile selon Luc. Et nous en lirons quelques versets au chapitre 3. Or, en la 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate, étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, et Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée, et de la contrée de Trachonite, et Lysanias, tétrarque de la Bilène, sous la souveraine sacrificature d'Anne et de Caïphe, la parole de Dieu vint à Jean, le fils de Zacharie, au désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance en rémission de péché, comme il est écrit au livre des paroles d'Ésaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera baissée, et les choses tortues seront rendues droites, et les sentiers raboteux deviendront des sentiers unis, et toute chair verra le salut de Dieu. » Au verset 15, « Et comme le peuple était dans l'attente et que tous raisonnaient dans leur cœur à l'égard de Jean, si lui ne serait point le Christ, Jean répondait à tous disant, « Moi je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales, lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son vent dans sa main, et il nettoiera entièrement son air et assemblera le froment dans son grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible. » Verset 21. Et il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il y eut une voix qui venait du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » À la fin de l'Évangile, au dernier chapitre 24, nous lirons quelques versets. Verset 45. « Alors Jésus leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures, et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrît, et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, moi, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. » Et nous ajoutons un verset ou deux au début du livre des Actes, du même auteur, de Luc, chapitre 2. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Verset 33. Il s'agit donc du deuxième discours de Pierre à Jérusalem, qui dit, au verset 32, « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins, ayant donc été exalté par la droite de Dieu, et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. » Nous arrêtons là. Le caractère austère de Jean, lorsqu'il apparaît sur la scène, le vêtement dont il est revêtu, le fait qu'il y avait 4 siècles au moins qu'un prophète de l'Éternel avait été suscité sur la scène, tout se lie, tout concourt à le rendre impressionnant au milieu des Juifs quand il entre dans son ministère. C'est un homme d'une stature exceptionnelle. Le Seigneur dira de lui, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Donc, nous appuyons sur l'affirmation du Seigneur, nous pouvons dire, voilà, l'homme qui a été suscité et que Dieu appelle le plus grand de tous les hommes sur la terre. La raison, elle est évidente. Il fait partie de cette chaîne de prophètes dont il constitue le dernier maillon, car lui, il a vu ce que Abraham avait désiré. Le Seigneur dira, Abraham a désiré voir un des jours du Fils de l'homme. Mais Jean, instruit par Dieu, car ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui le rendait capable de découvrir une telle chose merveilleuse. Dieu l'instruit et tout à coup il peut dire, voilà l'agneau de Dieu. Quelle découverte pour lui. Pouvoir dire, en le voyant, qu'il y a maintenant sur la scène celui dont tous les prophètes ont parlé, celui qui a été annoncé de tant de manières, dans l'excellence de sa personne, dans la perfection de l'œuvre qu'il allait accomplir et qui permettrait à Dieu d'accomplir toutes ses promesses. Remplissant sa carrière avec une énergie, un dévouement incomparable, carrière d'ailleurs très courte, mais marquée par la joie, même avant de naître, sa mère dira, lorsque j'ai entendu la voix de la mère de mon Seigneur, le petit enfant a tressailli de joie dans mon ventre. Et cette joie qui est la mienne, dit-il, d'être le précurseur du Messie, cette joie qui est la mienne, d'être l'ami de l'époux, elle est accomplie. Une carrière très brève, à la moitié de ses jours, sa tête sera tranchée. Et on pourrait dire, petite parenthèse, comment se fait-il qu'un homme de cette qualité, qu'un prophète de cette envergure ait une carrière aussi courte, et qu'une femme cruelle, sanguinaire, véritable Jézabel de son temps, acceptant de voir sur un plat la tête de cet homme de Dieu, tête apportée sur un plat par une jeune fille. Quelle scène atroce que celle-là. Comment se fait-il que Dieu a pu permettre cela? Eh bien, rassurons-nous, chers amis, l'Esprit de Dieu dira dans ce même livre des Actes, et comme Jean achevait sa course, pour Dieu, sa course était terminée. Très brève, mais parfaitement remplie et marquée d'une joie à nulle autre pareille. La joie de Jean, puis la naissance, avant sa naissance, jusqu'à la fin. Il y aura bien chez lui quelques défaillances, mais nous retenons ce que le Seigneur dit, c'est le plus grand de tous les hommes. Et d'autre part, il convient de ne pas oublier la manière dont Jean va parler du Seigneur lui-même. Et le plus grand de tous les hommes, quand il va voir le Seigneur venir se pencher sur les eaux de la mort au Jourdain, va se récrier et dire, mais j'ai besoin d'être baptisé par toi. Comment se fait-il que toi tu viens à moi? Je ne suis pas digne, dit-il, dans l'évangile du service, même en me baissant, de délier la courroie de tes sandales. Il y avait là, dans cet homme abaissé, sortant comme une racine d'une terre aride, il n'a ni forme ni éclat, rien en lui pour nous le faire désirer. Il y avait là quelqu'un qui était bien plus grand que Jean, et Jean l'a bien saisi, car il dira, même en me baissant, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. Et la chaleur du message de Jean sera-t-elle, malgré sa brièveté, que ses disciples vont l'abandonner pour suivre Jésus? Jean, il fait partie de la sacrificature, nous le savons bien, famille sacerdotale, qui a des privilèges en relation avec l'autel. mais Jean n'offre pas de sacrifice. Jean ne rappelle pas, comme les prophètes d'autrefois, à l'obéissance de la loi. Jean a un ministère tout à fait particulier. Une preuve aussi qu'il est un grand homme se trouve dans le fait que deux prophètes l'ont annoncé. Nous ne trouvons pas dans l'Ancien Testament qu'un prophète ait annoncé, qu'un autre prophète surviendrait sur la scène pour une mission quelconque. Mais deux prophètes, Ésaïe, et Ésaïe nous donne presque en mot pour mot le message que Jean allait délivrer, que nous avons lu ce soir ensemble. Deux prophètes, Ésaïe et Malachie, annoncent la venue de Jean-Baptiste. Et le Seigneur dit aux Juifs, si vous voulez recevoir ce que je vous dis, celui-ci, Jean, c'est Élie qui doit venir. Élie, annoncé par Malachie pour précéder, pour préparer, en précédant et en préparant le chemin, la venue du Messie. Jean est donc un serviteur d'une envergure exceptionnelle. Mais, nous le répétons, chose qui ne doit pas nous surprendre, il ne rappelle pas le peuple à l'obéissance de la loi. Si nous avons lu le prophète Malachie, nous savons bien dans quel état ce pauvre résidu remonté de la captivité est tombé, déjà 4 siècles avant que Jean paraisse sur la scène. Et l'Esprit de Dieu, dans l'Évangile selon Luc, va dégager seulement un tout petit résidu du milieu de cette nation qui n'a conservé que des formes extérieures de piété, mais dont le cœur est fort éloigné de Dieu, et dont Jean, à l'égard desquels Jean dira, c'est une chose extraordinaire que le message de Jean. Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Jean est d'une intrépidité, d'une hardiesse, et son message est d'un mordant tel que nous comprenons bien qu'il attire sur lui la vindicte, la haine de ceux qui sont en position d'autorité et dont il a dénoncé les turpitudes comme il l'a fait à l'égard d'Hérode avec la femme de son frère Philippe. C'est un homme qui peut braver les pires dangers sans fléchir, sans broncher. Mais nous répétons, son message est tout différent de celui des anciens prophètes. Et le baptême de repentance, c'est-à-dire être immergé dans l'eau, image de la mort, est pour ceux qui acceptent le message de Jean, l'affirmation qu'il n'y a aucune espèce d'espérance attachée à leur situation. Ils confessent, en se penchant sur les eaux du Jourdain, que seul Dieu, le Dieu d'Israël, peut les délivrer de cet état. Mais en venant au baptême de Jean, ils attestent par cet accord d'être d'accord avec Dieu sur le fait qu'ils sont pécheurs et qu'il n'y a pas d'espoir pour eux. Revenir à la loi, c'est terminé. C'est une économie qui se termine. Et Étienne va nous le confirmer dans le discours qu'il tiendra quelques années plus tard, couronnant, si l'on peut ainsi parler, son réquisitoire contre les Juifs, que va-t-il placer en tête de tous les arguments qu'il va leur présenter? La loi que Dieu vous a donnée par la disposition des anges, vous ne l'avez point gardée. C'était trop tard, c'était terminé. Sauf que Jean va dégager maintenant au baptême qu'il administre un petit résidu qui sera joint au Seigneur et qui représente pour Dieu le vrai Israël, les saints et les excellents de la terre. Quelques-uns seulement, associés au Seigneur par le baptême de Jean. Leur rayonnement du ministère de Jean est tel que les Juifs se demandent, mais n'est-il point le Christ qui doit venir? Mais Jean n'a fait aucun miracle. Et Jean dira, mais je ne suis pas le Christ. L'humilité de cet homme est à la mesure de sa grandeur, en raison inverse sans doute. Mais il dira, moi, tout en étant le plus grand des hommes, tout en étant le plus grand des prophètes, je ne suis qu'une voix. Et la raison de la puissance de son ministère, c'est que il n'attire pas à lui-même, nous l'avons dit tout à l'heure, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Voilà le secret d'un service utile. Rendre Christ précieux à l'âme, attacher les âmes à Christ et se mettre entièrement de côté, comme n'étant qu'un moyen, comme n'étant qu'une voie. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Le don le plus précieux, le plus excellent, est donné par le Seigneur. Il n'y a rien de celui qui l'a reçu. Il n'est qu'un instrument. Que Dieu soit glorifié, que le Seigneur soit exalté, voilà le but du vrai ministère. C'est bien celui de Jean. Donc, en prêchant le baptême de repentance et en admettant celui-ci, en se conformant à celui-ci, ceux qui venaient se faire baptiser ne savaient pas comment Dieu allait les délivrer. Ce baptême était administré en vue de la rémission de péchés. Et un peu plus loin dans notre lecture, afin que toute chair voie le salut de Dieu. Mais comment ce salut allait être présenté? Qui allait l'accomplir? Et comment la rémission des péchés allait être opérée? Personne ne pouvait le dire. Mais la foi de ceux qui venaient au baptême de Jean s'emparait des promesses de Dieu, de la parole de Jean, et s'attendait à la miséricorde de Dieu. Alors, pour avancer un peu dans notre sujet à l'égard du baptême du Saint-Esprit dont nous désirerions nous entretenir ensemble ce soir, Jean va leur dire au verset 16, « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la croix des sandales, lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. » Dans ce verset, nous avons déjà la mention de trois baptêmes différents. Il y a souvent une certaine confusion dans l'esprit de beaucoup de lecteurs de la parole de Dieu à l'égard de ces différents baptêmes. Nous en avons trois ici, le baptême d'eau administré par Jean, baptême, nous le savons bien, veut dire être plongé, être immergé dans. Et par le baptême, on est associé à une personne ou à un état de choses. Ils ont été baptisés pour Moïse dans la mer et dans la nuée, associés à l'état nouveau que Moïse administrait de la part de Dieu, sortant ce peuple de l'esclavage d'Égypte pour l'introduire, peuple sauvé, racheté, au-delà de la mort, au-delà de la mer rouge, figure de la mort, dans laquelle ils ont une part, mais ressortant au-delà de la mer, comme Christ allait entrer et sortir victorieux de la mort. La rédemption par puissance dans l'eau de la mer rouge, comme ils ont été au bénéfice de la rédemption par le sang, grâce au sang qui a été aspergé sur les poteaux et le linteau de la porte. La rédemption par le sang qui arrête le jugement de Dieu, et la rédemption par puissance dans la mer rouge, par laquelle Dieu prend contre lui tous les ennemis de son peuple et les jette, les plonge dans les eaux de la mer rouge, dans le jugement. Ils sont descendus comme du plomb, le pharaon et ses grands chefs d'armée avec leurs chars, tout leur matériel si impressionnant pour l'époque, sont descendus comme du plomb dans les profondeurs de la mer. Être baptisé pour Moïse, être associé à un état de choses nouveau, introduit par Moïse. Baptême d'eau, baptême de repentance au jour de Jean, baptême de l'Esprit Saint, baptême de feu. Voilà déjà trois baptêmes. Y en a-t-il encore d'autres? Eh bien, il y en a encore d'autres. Et on peut dire, en se basant sur la parole de Dieu, que l'on compte cinq baptêmes. Mais il est bien facile de ne pas les confondre. Trois ici, dans l'Évangile selon Luc, et nous allons avoir la scène rapportée dans chaque évangile pour en souligner toute l'importance. Nous allons avoir la scène du baptême du Seigneur au Jourdain rapportée dans chacun des évangiles. Chose assez rare, mais l'importance de ce fait est telle que chacun des évangélistes a été conduit par l'Esprit de Dieu à nous le rapporter. Disons tout de suite, pour ne pas l'oublier, que nous avons la mention du baptême du Saint-Esprit sept fois dans la parole de Dieu, quatre fois dans les évangiles. Venons de rappeler que cette scène est rappelée dans chacun d'eux. Quatre fois dans les évangiles, baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur a été baptisé sur le Jourdain et l'Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle. Et lui, ayant été baptisé dans cette occasion, ayant reçu le Saint-Esprit comme une colombe, dans sa plénitude, va baptiser lui-même du Saint-Esprit. 4 fois dans les évangiles, la mention baptême du Saint-Esprit. 2 fois dans le livre des Actes, chapitre 2, chapitre 10. Et 1 fois dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13, où on était baptisé du Saint-Esprit pour être un seul corps. Nous verrons tout à l'heure, si nous en avons le temps, comment l'apôtre souligne le pourquoi du baptême du Saint-Esprit, dont on fait tant de cas aujourd'hui, dont on parle tant, et autour duquel on fait tant de bruit. Pour le dire en passant, et nous ne voulons évidemment faire de peine à personne, nous ne sommes pas là d'ailleurs pour polémiquer, mais le pentecôtisme, en relation avec le baptême du Saint-Esprit, n'est pas une chose très ancienne. Chacun, s'il a lu un peu l'histoire du christianisme, sait bien que ce mouvement prit naissance aux États-Unis à Los Angeles en 1906 et a été importé d'Amérique, d'abord en Allemagne en 1907, pas tellement longtemps, et a donné, dès son apparition dans ce pays voisin, a donné lieu à de tels désordres que les personnes sensées se sont détournées tout de suite des scènes d'exagération auxquelles la prétendue nouvelle manifestation de l'Esprit, le baptême nouveau du Saint-Esprit, les personnes sensées qui avaient le respect de la bienséance se sont détournées avec horreur des scènes que nous n'avons pas ici l'autorisation et la liberté de décrire. Mais il y a eu de tels excès, de tels débordements que les personnes animées de bon sens et de bienséance se sont détournées de ce qui se passait dans ces jours-là. Chacun, s'il a lu quelque chose de l'histoire, sait bien de quoi nous parlons. Donc, 7 fois la mention du baptême du Saint-Esprit, 4 fois dans les évangiles, 2 fois dans le livre des Actes, 1 fois dans 1 Corinthiens 12. Chaque fois, nous avons une occasion de nous pencher sur ce terme avec le secours du Saint-Esprit, pour en définir, pour en limiter la signification et ce que Dieu veut nous apprendre par là. Nous avons dit Saint-Baptême. Résumons-les rapidement. 3 ici dans l'Évangile selon Luc, dont nous allons dire un mot. Évangile. 3 baptêmes, le baptême d'eau, le baptême de repentance, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Et en plus, le baptême chrétien, qui n'était pas connu dans ces jours-là. Le baptême de Jean, nous l'avons dit, associé à un Messie vivant qui était là sur la scène et qui, s'il avait été reçu, introduisait le royaume annoncé par les prophètes. Le baptême chrétien, au contraire, lui, nous identifie avec un Christ dans sa mort. Ils ont été identifiés dans le baptême avec la mort de Christ dont nous sortons en ressemblance de sa résurrection. Nous avons part à la ressemblance de sa mort étant plongés dans les eaux du baptême. Ce n'est pas une ordonnance, ce n'est pas un commandement, c'est une disposition que le Seigneur nous a enseignée et à laquelle nous devons nous soumettre. Mais il n'y a rien de légal, ce n'est pas un sacrement, ce n'est pas une ordonnance, c'est une simple disposition à laquelle nous nous soumettons. Nous n'allons pas entrer maintenant dans la question du baptême des enfants ou des adultes, chacun doit avoir affaire avec le Seigneur pour décider de la chose, mais le baptême chrétien, c'est donc celui qui consiste pour un croyant à être identifié avec Christ dans sa mort. En participant au baptême, je porte la livrée d'un Christ mort, mais je ressors de l'eau comme Christ est ressorti de la mort, pour vivre en nouveauté de vie. Romains 6, l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, sont assez clairs sur la définition du baptême chrétien. Ça fait un 4e baptême. Baptême d'eau, de la repentance, baptême de Jean, baptême du Saint-Esprit, baptême de feu, baptême chrétien, baptême d'eau, mais nous identifions avec Christ dans sa mort, tandis que le baptême de Jean, baptême d'eau, nous associe à un Christ vivant qui se trouvait sur la scène pour introduire son royaume. Il en reste un, le cinquième. Le cinquième, lorsque nous le lisons, il n'est pas cité beaucoup de fois, mais nous nous arrêtons avec des cœurs remplis d'émotion, car il s'agit du sien, de son propre baptême, dont le Seigneur dira, et qui, par lequel, l'expression par laquelle il veut introduire sa mort, « Combien suis-je à l'étroit des ténèbres jusqu'à ce qu'il soit accompli, j'ai à être baptisé d'un baptême. » J'ai à être baptisé d'un baptême, pour parler de la mort dans laquelle il allait entrer. Selon le psaume 22, « Descendant dans la mort, connaissant la poussière de la mort, s'abaissant, s'anéantissant jusque-là, jusqu'à la mort et à la mort de la croix. » Mais pour en ressortir, après l'avoir vaincu, terrassé, brillant vainqueur, car ce n'est pas la mort qui a eu raison de lui, c'est lui qui a eu raison de la mort. Et son tombeau, disait quelqu'un, est le seul qui n'aura rien à rendre. Déjà premier-né d'entre les morts, Christ les prémices, est sorti victorieux du sein de la mort. J'ai à être baptisé d'un baptême. Et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli? Et quand il en parle, dans l'évangile, c'est dans Luc 17, et quand il en parle dans l'évangile de Marc, inconsidérément, les disciples qui lui ont demandé pour avoir une place en vue dans son royaume, le Seigneur leur pose la question, « Mais est-ce que vous pouvez être baptisé de mon baptême ?»« Oui, nous le pouvons, » disent-ils. Pauvre Pierre, peu de temps après, il allait dire avec imprécation, « Je ne connais pas cet homme. » Et pourtant, le Seigneur leur dit, « Oui, vous serez bien baptisés de mon baptême, mais il fallait pour cela qu'ils aient reçu le Saint-Esprit puissant de la vie nouvelle pour être remplis de hardiesse et au lieu de s'enfuir et de se retirer lorsque les conditions deviennent dramatiques pour donner leur vie pour le Seigneur. Il fallait autre chose que la détermination naturelle, que l'énergie de l'homme, si généreuse, si réelle soit-elle, la chair semblait donner à Pierre cette énergie et ce courage, mais au moment où il aurait dû pouvoir compter sur cette énergie, elle lui fait entièrement défaut. Et le Seigneur se retourne et regarde Pierre. Pour la troisième fois, il vient de le renier et le coq vient de chanter. C'était trop tard. Pierre est sorti dehors pour pleurer amèrement. « Pouvez-vous être baptisé de mon baptême ?»« Oui, disent-ils, mais ils ignoraient ce que comportait. » Ce que le Seigneur plaçait devant eux, le baptême pour lui, c'était donc la mort dans laquelle, volontairement, il voulait descendre après avoir dit c'est accompli, baissant la tête, remettant son esprit à Dieu son Père. C'est un acte de puissance auguste, détachant son esprit de son corps, comme le disait un de vos chers frères, et le remettant à Dieu son Père. Et entrant dans la mort, mais dans la confiance que Dieu ne permettrait pas que son sein voie la corruption. Et le grand matin, le premier jour de la semaine, comme le soleil se levait, l'aube d'une création nouvelle, création dont il est le chef et le centre, inaugurée par sa résurrection, vient de prendre cours, comme le soleil se levait, dit l'évangile selon Marc. Christ est ressuscité. Saint baptême, baptême d'eau de Jean, baptême du Saint-Esprit, baptême de feu, baptême du Seigneur, baptême chrétien. Revenons un instant, si vous voulez, à cette question du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire être identifié avec le Saint-Esprit qui allait venir sur la terre après la glorification du Seigneur. Car le Seigneur, dans l'évangile de Jean, de nous dire que l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié encore. Il est bien évident que personne ne peut imaginer, quand Jean nous dit que l'Esprit n'était pas encore, que l'Esprit n'existait pas encore. L'Esprit n'était pas encore sur la terre. Essayons de rappeler quelques notions de l'Esprit de Dieu. Qui est l'Esprit de Dieu? Dieu est Esprit. C'est une personne divine, à l'égal du Père et du Fils. Mais nous ne trouvons pas que la parole emploie l'expression « Dieu le Saint-Esprit », ni non plus « Dieu le Fils ». Cela pourrait introduire l'idée qu'il y a Dieu indépendant, chaque personne divine l'une de l'autre. L'Esprit de Dieu est cité, le Fils de Dieu est cité. Et chacune des personnes divines, c'est le glorieux et saint mystère dont on ne peut pas parler sans déchausser ses pieds. Chacune des personnes divines est Dieu, à l'égal des autres, bien entendu. Les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire est apparu à Abraham, notre Père, dira Étienne. Le Seigneur est appelé par Paul le Seigneur de gloire. S'ils eussent connu le Seigneur de gloire, ils ne l'eussent pas crucifié. Mais l'Esprit est tout aussi bien appelé l'Esprit de gloire. Parole est la vérité, Seigneur est la vérité, l'Esprit est la vérité qui nous introduit dans la connaissance de Christ qui est la vérité, par la parole qui est la vérité. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre depuis le commencement comme une personne divine régissant les grands actes qui allaient s'opérer sur la terre. L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. C'est par lui, Job nous le dit, le livre des psaumes, que tout a été créé. La création est attribuée à Dieu, attribuée au Seigneur, attribuée au Saint-Esprit de la même manière. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit accomplit beaucoup de choses. Au temps de Noé, par exemple, c'est lui qui contestait avec les hommes. L'Esprit de Dieu contestait avec les hommes, marqué par la violence et la corruption, pour les amener à se repentir en vue d'éviter le jugement qui était annoncé. C'est lui, nous l'avons vu hier avec quelques amis par exemple, qui va opérer dans certains hommes choisis de Dieu pour constituer les ustensiles du tabernacle, qui avait donné la capacité, la faculté à Bézaléel et à ses compagnons pour réaliser des choses si difficiles dont nous n'imaginons pas bien la difficulté quant à la réalisation d'ustensiles tels que le chandelier par exemple. Eh bien, Dieu avait rempli Bézaléel de l'esprit, de sagesse, de connaissance pour accomplir des choses extraordinaires. La parole de Dieu que les prophètes présentaient, c'était ce que l'esprit placés dans leur bouche, de saints hommes de Dieu, ont parlé étant poussés par l'Esprit Saint. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas méconnu dans l'Ancien Testament, bien au contraire. Mais il n'était pas sur la terre comme personne divine. Et ce matin, en famille, nous relisions précisément une scène de l'Évangile selon Luc, où l'on voit Siméon instruit par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, et recevant des communications extraordinaires par l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu n'habitait pas en lui comme sceau de sa foi, comme onction pour comprendre la parole de Dieu, et comme art pour affirmer l'espérance que Dieu nous a donnée. Le sceau, c'est une question d'assurance, 2 Corinthiens 1. L'onction, c'est une question de connaissance, et les arts, c'est une question de jouissance. Mais l'Esprit n'était pas connu de cette manière dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit de Dieu est venu sur la terre comme personne divine lorsqu'un homme est monté au ciel, car il y a un homme maintenant glorifié, assis sur le trône de Dieu à sa droite, que Dieu a salué, souverain sacrificateur selon le rang le plus élevé qui soit. Et dès lors, le Saint-Esprit descend sur la terre pour attester dans des actes éclatants de puissance que Jésus, celui que la nation a rejeté, a crucifié, qui est descendu dans la mort, est sorti victorieux et remonté au ciel. L'Esprit vient sur la terre pour donner puissance au témoignage, donner puissance à ce témoignage rendu par les apôtres. Donc, l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais dès que le Seigneur est remonté au ciel, l'Esprit va descendre sur la terre. Et nous allons essayer de le voir rapidement, tout à l'heure, si nous avons encore une minute, pour former, elle n'était pas sur la scène jusque-là, en acte 2, pour former l'Église, pour former l'Assemblée. Baptisant les croyants individuellement et venant former l'assemblée, le corps de Christ, dont chaque croyant est un membre vivant. Donc, dans notre passage ici, Luc nous parle de ce baptême du Saint-Esprit et de ce baptême de feu. Disons un mot maintenant de ce baptême de feu. On entend dans certains milieux croyants et de la part de d'âmes sans doute pleines de zèle et du désir de glorifier le Seigneur, on entend des prières telles que celle-là, d'être à nouveau baptisé du Saint-Esprit, recevoir un nouveau baptême du Saint-Esprit et d'être baptisé de feu, c'est-à-dire rempli d'énergie pour rendre témoignage et accomplir des choses que nous ne pourrions nullement faire sans le secours de l'Esprit. Est-ce que la demande d'un nouveau baptême se justifie-t-elle? Bien, si nous nous basons sobrement sur la parole de Dieu, nous pouvons dire, sans équivoque aucune, sans nous méprendre, que le baptême du Saint-Esprit a eu lieu une fois, n'a jamais été répété et ne sera jamais répété. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans le livre des Actes, en anticipant quelque peu, ont été rattachés à ce qui s'est passé en acte 2, à ce que l'Écriture appelle le baptême du Saint-Esprit, mais il n'y a pas eu pour Corneille et sa famille de nouveau baptême du Saint-Esprit. Ils ont été rattachés, en recevant l'Esprit-Saint, à ce qui avait été constitué par la descente du Saint-Esprit en acte 2. Ils font partie de l'Assemblée en recevant le Saint-Esprit eux-mêmes et rattachés à cette Assemblée formée par la descente du Saint-Esprit en acte 2. Ce n'est pas bien difficile, mais ce sont des choses très simples et l'ennemi n'a pas manqué de faire irruption dans les rangs de chers croyants pour les amener à recevoir toutes sortes de nouveautés et les égarer ainsi sur un chemin dans lequel ils ne peuvent trouver l'approbation du Seigneur. Le baptême de feu, pouvons-nous demander un baptême de feu? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a des prières que nous pourrions faire et qu'il est et à l'égard desquels nous pouvons dire « Nous sommes reconnaissants que le Seigneur ne réponde pas de telles prières. » Si le Seigneur répondait à la demande de certains croyants qui désirent recevoir un baptême de feu, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que le feu va descendre du ciel pour les anéantir. Car rien que dans notre passage, le feu, à la fin du verset 16, « Il vous baptisera de l'Esprit-Saint et de feu. » Le feu, fin du verset 17, il brûlera la balle au feu inextinguible. Donc le feu, c'est l'agent du jugement, feu inextinguible, qui va consumer ce qui n'est que livré, ce qui n'a que l'apparence sans la réalité. Mais le baptême de feu n'est pas pour maintenant, puisque nous sommes dans le jour de la grâce. Et demander un baptême de feu, c'est demander en fait que le Seigneur descende du ciel en flamme de feu pour anéantir tous ses adversaires et pour détruire tout ce qui n'a que la profession livrée qui est constituée en botte et qui est jetée au feu. Parabole de Matthieu 13, bien connue. Donc, demander un baptême de feu, c'est demander l'exercice d'un jugement terrible. Quand nous lisons dans le livre des Actes, remarquons cette expression, parce que la parole de Dieu est précise et nous devons la retenir avec attention et ne pas nous laisser entraîner par notre imagination. Le Seigneur dit au verset 5 de acte 1, « Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit-Saint et de feu dans peu de jours. » Est-ce que nous lisons cette expression dans acte 1? Le Seigneur a bien soin de ne pas ajouter ce que Luc nous dit, baptisé de l'Esprit-Saint et de feu. Au contraire, le Seigneur dit, en écourtant la phrase, « Vous serez baptisés de l'Esprit-Saint dans peu de jours. » Le Seigneur est avec eux pendant 40 jours, leur a dit de ne pas quitter la Sainte Ville et d'attendre la promesse du Père, la promesse que le Père avait faite d'envoyer le Saint-Esprit après la mort, la résurrection et la glorification de son Fils. Vous serez baptisés de l'Esprit-Saint dans peu de jours. Mais le Seigneur omet, comme il se doit, l'expression baptisé de feu. Si nous voulons connaître la signification du baptême de feu, nous devons ouvrir, par exemple, la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, où nous avons le jour du Seigneur dépeint, le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament, qui est un jour de jugement qui s'affirme par le feu, la destruction de tous les impies. Vous voyez, ce sont des choses que la parole de Dieu ne confond point. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre, et dans l'Évangile selon Jean, le Seigneur s'étend assez longuement sur ce don du Saint-Esprit. Les disciples étaient remplis de tristesse. Le Seigneur leur avait dit, « Eh bien, je m'en vais retourner au Père. » Et le Seigneur leur dit, « Mais ne soyez pas tristes, ne vous laissez pas gagner par le désappointement, la tristesse, car il vous est avantageux que moi je m'en aille. » Mais comment, Seigneur, est-il avantageux que tu t'en ailles? Et Jean, bien des années plus tard, en écrivant sa première épître, nous dira à travers quelques phrases qui nous émeuvent ce que la présence du Seigneur était pour eux, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché de nos mains. Pouvait-il y avoir bonheur plus grand pour les disciples que d'être autour du Seigneur? Et pour Jean, par exemple, de pencher sa tête sur la poitrine du Seigneur et d'être celui à travers lequel le Seigneur faisait connaître quelques secrets. Car la connaissance des pensées de Dieu n'est pas une question d'intelligence, n'est pas une question de développement de l'esprit, c'est une question de cœur. Pierre fait signe à Jean, car il comprend bien que Jean est moralement bien mieux placé que lui pour recevoir la connaissance de ce secret. Il fait signe à Jean de montrer un peu de qui il s'agit. Pierre ne pose pas la question lui-même, mais il l'a fait poser par Jean. Jean, qui est le disciple que Jésus aimait? Et l'Apocalypse va nous montrer qu'en effet, le secret de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Eh bien, dans ce cas précis, le Seigneur dit, malgré le privilège extraordinaire que nous pouvons difficilement apprécier, d'avoir le Seigneur au milieu d'eux, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Cela nous amène à dire, et chacun à comprendre, que le don du Saint-Esprit, quant à tout ce qu'il comporte, dépasse en privilège, en joie, en bonheur, en jouissance, la présence même du Seigneur au milieu d'eux, lorsqu'il était là, avant d'aller à la croix. N'est-ce pas une chose extraordinaire? Le Seigneur, dans l'Évangile, selon Jean, rapidement, va leur dire, « Bien, le Saint-Esprit, que je vais vous envoyer de la part du Père, il va faire cette chose. » Résumons-les rapidement. D'abord, il sépare, Jean 14, sépare la possession du Saint-Esprit, que vous allez entrer dans la connaissance de ce glorieux mystère, la relation des personnes divines entre elles, que je suis dans le Père et que le Père est en moi, que vous êtes en moi et que je suis en vous, que vous êtes en moi devant le Père, écrit aux Éphésiens, et que je suis en vous devant le monde, écrit aux Colossiens. C'est par le Saint-Esprit que nous allons entrer, pas par notre intelligence, dans la connaissance des saintes vérités relatives aux relations si riches, divines, entre le Père et le Fils. Et ce que nous sommes maintenant quant à notre position devant Dieu, et d'un autre côté, le privilège que nous avons d'être les témoins du Seigneur dans le monde. Moi en vous, vous en moi. Première chose. La deuxième chose, le Seigneur dit, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Par exemple, l'Ancien Testament, dans ses types si riches, qui pourrait, par sa propre intelligence, découvrir la moindre chose à l'égard de cet enseignement si simple, dans un langage qu'un enfant peut lire aisément, et pourtant d'une profondeur et d'une richesse insondable. Nous disions hier, Dieu n'a pas besoin de faire appel aux ressources de l'intelligence humaine, à la rhétorique que les hommes emploient pour édulcorer leur style et le rendre attrayant. Dieu place des vêtements devant nous, nous dit voilà, les vêtements du souverain sacrificateur. Il nous dit, voilà, la chemise, le premier vêtement, sa ceinture, la robe, l'éphod, la ceinture de l'éphod, le pectoral, ensuite la tiare, et il nous donne une énumération toute simple. Et chers amis, quand nous la lisons avec le secours de l'Esprit de Dieu, nous découvrons là des choses d'une richesse et d'une beauté incomparables. Dieu ne fait pas appel à un style recherché. Moïse nous donne une simple liste, comme il en est pour beaucoup d'autres choses. Alors, comment pouvons-nous entrer dans la connaissance des pensées de Dieu? Dans l'Ancien Testament, par exemple, bien, il nous faut l'Esprit de Dieu, c'est la clé pour ouvrir le trésor. C'est l'Esprit de Dieu qui vous enseignera toutes choses, tout ce qui a été donné par Dieu, dans sa parole depuis le commencement. Troisième chose, il vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Comment les évangélistes ont-ils pu nous donner le récit de la vie, du témoignage, des discours et des grands actes accomplis par le Seigneur? Est-ce qu'il y a eu une concertation entre les évangélistes pour que l'un dise, eh bien moi je vais rédiger l'évangile sous un tel éclairage, tu présentes à le serviteur, toi tu t'occuperas du fils? Rien de semblable. Chacun a été conduit pour nous donner le récit selon l'indication précise ordonnée par l'Esprit de Dieu. Matthieu décrit devant nous le roi des Juifs. Marc dépeint le serviteur. Luc nous montre toute l'activité du Fils de l'homme. Et Jean nous fait entrer dans la connaissance du Saint Mystère, le Fils bien-aimé du Père, qui vient dans ce monde pour le révéler. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Seulement, cette petite échappée, pourquoi Jean ne nous donne-t-il pas le récit des scènes auxquelles il a participé activement? Que vous trouvez la résurrection de la fille de Jaïrus? Trouvons-nous une mention de la transfiguration du Seigneur, de la scène de Gethsémané? Est-ce que Jean aurait oublié cela? Mais Jean n'a rien oublié. Jean, au contraire, jouit d'une mémoire exceptionnelle pour nous fixer des dates, pour nous indiquer comment les choses se sont déroulées, pourquoi il y avait un feu lorsque le Seigneur est mis en état d'arrestation pendant la nuit, qui était autour du feu, avec quoi le feu brûlait-il. Quand Pierre sort l'épée pour fracasser le crâne de cet esclave, qui va nous donner le nom de l'esclave, et quelle oreille a-t-elle été coupée? Bien, Jean nous donne tous ces détails. Aurait-il oublié des choses aussi importantes que la transfiguration? Pas du tout, mais l'Esprit de Dieu l'a conduit à nous donner exactement ce qui devait être placé devant nous dans ce tableau si merveilleux, la présentation de Dieu sur la scène, venant en grâce, se révélant dans le Fils qui veut le faire connaître. Donc chacun des évangélistes nous a donné sous un éclairage particulier ce que l'Esprit lui dictait pour que nous soyons en présence de tableaux merveilleux. Et ceux qui ont voulu, comme on le dit, rédiger les quatre évangiles en un seul se sont lourdement trompés. Ils n'ont pas compris l'intention de l'Esprit de Dieu. Et là où le rationaliste semble voir des différences et les opposer l'une à l'autre, la foi s'incline pour adorer, pour magnifier la sagesse de Dieu. C'est lui qui vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. C'est donc les évangiles. C'est par lui que vous rendrez témoignage, et sera la puissance par laquelle vous rendrez témoignage. Voilà le livre des actes. Avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, se sont tous enfuis. Mais quand ils recevront le Saint-Esprit, au mépris de leur vie, et ils vont tous la donner pour le Seigneur, sauf un, ils ne craindront rien ni personne, et ils donneront leur vie pour affirmer que Jésus est monté au ciel. Loin d'avoir été le jouet de leurs illusions, comme les rationalistes le disent, ils rendent un témoignage positif car ils l'ont vu monter au ciel. Mais c'est la gerbe des prémices qui est présentée, et nous n'avons pas dans le livre de Lévitique pas la moindre mention d'une fête pour cette présentation de la gerbe à laquelle le peuple est convié, pour nous annoncer déjà que seuls les disciples ont vu le Seigneur monter au ciel. Quand a-t-on vu le Seigneur pour la dernière fois sur la terre? Ceux qui passaient par là ont vu Christ sur la croix. c'est la dernière fois que les hommes ont vu le Seigneur. Car quand il est monté au ciel, pour réaliser la fête de la présentation de la gerbe le lendemain du sabbat qui suit la Pâque, premier jour de la semaine, quelle merveilleuse réalisation du type annoncé par Lévitique 23, personne n'a vu le Seigneur monter au ciel. Nous le chantons quelquefois, les siens seuls l'ont vu. Ce n'est pas une chose qui a été vue du monde. Quand le monde le verra, et il ne le verra pas sans nous, c'est quand il descendra du ciel et que se réalisera ce que Jean nous dit dans l'Apocalypse. Tout œil le verra pour la terreur et l'effroi que nul ne peut décrire de ceux qui tout à coup se trouveront devant lui. Voici, il vient avec les nuées, c'est-à-dire avec les armées célestes, et tout œil le verra. C'est par lui, par la puissance qu'il vous donnera, que vous rendrez témoignage. Livre des Actes. Encore une autre chose, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà les épîtres. Et enfin, c'est lui qui vous fera connaître, qui vous annoncera les choses qui vont arriver. C'est l'Apocalypse. Donc, nous ne pouvons rien accepter dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour connaître quoi que ce soit de cette parole. Et quand il est descendu sur la terre, selon la promesse du Seigneur en acte 2, nous avons la réalisation de Lévitique 23. Seulement deux mots encore, si vous permettez. Il semble que Luc, qui n'est pourtant pas juif, mais qui connaît bien la parole de Dieu et qui est conduit par l'Esprit de Dieu pour nous écrire ce second traité. Il en a écrit un, c'est l'Évangile qui porte son nom, et il l'écrit à la même personne. Mais vous avez remarqué en lisant le deuxième traité qu'il y a une modification dans l'adresse de ce second traité qui est écrit pour un certain Théophile et que Luc, dans son évangile, va appeler « très excellent Théophile ». C'est donc un homme qui possède une certaine dignité sociale et à laquelle Luc donne satisfaction, l'honneur à qui l'honneur, il écrit l'évangile au très excellent Théophile. Le second traité, le livre des Actes, écrit par le même auteur, est tout adressé à la même personne, mais nous ne trouvons plus « très excellent Théophile ». Pourquoi vous semble-t-il ça? Quand le très excellent Théophile a lu le premier traité et qu'il a vu qu'il n'a pas regardé comme une chose à maintenir à tout prix d'être égal à Dieu, mais qu'il s'est anéanti lui-même, qu'il s'est abaissé lui-même. Et ceci en sera le signe pour vous. Vous verrez un petit enfant emmailloté, couché dans une crèche. Quand Luc a lu l'abaissement du Fils de Dieu, celui qui est au-dessus de tout et de tous, à moi l'or et l'argent, les bêtes sur 1000 montagnes. J'ai parlé, la chose a été, j'ai commandé, et elle se tenue là. Quand il a vu le Créateur des mondes s'anéantir, s'abaisser, pour être là, ce petit enfant dans la crèche, et qu'il a lu dans cet évangile ce que Luc dira, eh bien pour Dieu, ce qui est haut estimé parmi les hommes, ce que les hommes recherchent avec tant d'ardeur, le rayonnement de leur personnalité, l'affirmation de leur nom, leur capacité pour briller au milieu de leurs semblables. Ce qui est haut estimé parmi les hommes est une abomination pour Dieu. Vous pensez, quand le très excellent Théophile a lu des choses semblables, qu'il a voulu conserver encore ce lustre à son nom, il a certainement dit à Luc, désormais Luc, je suis Théophile, mais je ne consens plus à être appelé très excellent Théophile. Il écrit donc le deuxième traité au même personnage, et dans le chapitre 2, il nous dépeint ce que le Seigneur a dit au chapitre 1er, vous serez baptisés de l'Esprit-Saint dans peu de jours. Et le baptême du Saint-Esprit, nous l'avons dit, opéré une fois, comporte précisément le fait que sans le demander, sans réunion de prière, sans tapage, il parle en langue. Et nous avons la descente, le don du Saint-Esprit présenté de quatre manières différentes. Nous le disons rapidement en terminant, nous n'avons pas le temps évidemment de continuer, ce serait bien le sujet d'une autre réunion, mais nous n'aurons pas peut-être l'occasion. Dans le chapitre 8, dans le chapitre 2, l'Esprit de Dieu descend, les Juifs doivent souscrire à certaines conditions pour cela, nous le savons bien. Dans le chapitre 8, le Saint-Esprit descend pour les Samaritains, pas de parler en langue. Il n'est pas nécessaire que l'on parle en langue à Samarie. Dans le chapitre 10, il descend à Césarée, dans la maison de Corneille, et là aussi, tout de suite, nous ne trouvons jamais que le don des langues soit subséquent, soit l'effet d'une demande particulière dans des réunions où l'on demande le baptême, un nouveau baptême du Saint-Esprit, un baptême de feu, et où l'on fait beaucoup de bruit pour parler en langue, rien de semblable dans la parole de Dieu. Nous ne trouvons jamais que le don des langues soit donné après le don du Saint-Esprit. En même temps, comme le Saint-Esprit vient sur eux, tombe sur eux, comme le dira Pierre, ils parlent en langue. Il y avait une nécessité dans ces jours-là qu'il en soit ainsi, et remarquons bien les endroits, c'est à Jérusalem, dans une ville où il y avait un grand nombre d'étrangers qui séjournaient le jour de la Pentecôte, pas besoin à Samarie, mais à Césarée, dans cette métropole, il était selon Dieu qu'il en soit ainsi, et les croyants qui reçoivent le Saint-Esprit parlent tout de suite en langue pour annoncer les choses magnifiques de Dieu. Nous trouvons encore une quatrième fois le Saint-Esprit donné, c'est en acte 19, c'est à Éphèse, autre grande ville, une communication entre l'Est et l'Ouest, et là aussi, ils parlent en langue tout de suite. Et enfin, dans 1 Corinthiens 12, que nous avons cité tout à l'heure, la raison majeure, par excellence, à nul autre pareil, nous est donnée par l'apôtre. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit, pourquoi ? Pour faire beaucoup de choses, pour faire parler de nous, pour parler en langue, pour faire beaucoup de bruit. Est-ce que, chers amis, dans un corps délabré, est-ce que nous pouvons nous attendre à une manifestation de puissance ? Quelle est l'attitude, quelle a été de tout temps l'attitude des fidèles au milieu d'un peuple qui se détourne, qui se dévoie, qui se dégrade ? Est-ce que vous trouvez des manifestations de puissance chez Daniel, chez le petit résidu qui a été maintenu à travers les âges ? Que leur convient-il ? Que fait Daniel ? Ce qui nous convient si hautement aujourd'hui. Il s'identifie avec la ruine de son peuple. Et loin de prétendre à une manifestation de puissance quelconque, il mouille le sol de leurs larmes. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Réalisons le deuil qui convient relativement à l'état de choses qui déshonore le Seigneur aujourd'hui, mais tout en ne cessant pas de s'appuyer sur les promesses immuables que Dieu a faites. Et dans Corinthiens 12, nous avons la réalité, le but essentiel pour lequel le Saint-Esprit a été donné, pour nous baptiser les croyants en un seul corps. Et nous avons ce grand privilège aujourd'hui, chers amis, à la fin d'une économie, lorsque le corps, dans sa manifestation extérieure, est complètement ruiné, nous avons le bonheur et nous le ferons demain si nous sommes encore là. Nous avons le bonheur de rendre témoignage à ce qui ne peut être ruiné, à ce qui ne peut être ébranlé, car le solide fondement de Dieu demeure. Et comme au plus beau jour de l'Église, quel privilège, mais en toute humilité et en versant des larmes, en laissant tomber le voile sur notre visage, nous pouvons rendre témoignage à l'unité du corps de Christ dont nous avons le symbole dans le pain de la scène. Mais nos chers devanciers ne manquaient jamais de dire: oui, notre témoignage est à l'unité du corps de Christ. Dieu a permis que nous puissions encore, à la fin d'une économie où tout est ébranlé, tout est ruiné, jouir des choses les plus précieuses comme au commencement. Mais ils ajoutaient, et que nul ne l'oublie, notre témoignage est à l'unité du corps de Christ, mais aussi à la ruine de l'Église.